Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de rester avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour et une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Déclaré il y a près d'un an en RDC, l'épidémie d'Ebola a déjà fait 1698 victimes sur plus de 2500 cas. L'Organisation mondiale de la santé vient même de déclarer l'épidémie d'Ebola en RDC comme une urgence sanitaire mondiale. Cette décision est accueilli diversement par la population. D'aucuns estiment que l'OMS s'y est prise en retard. Une autre opinion pense plutôt que c'est de la responsabilité de l'État qui a mal organisé la riposte de cette 10e épidémie. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention. En direct, vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats soumis à votre appréciation. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Siala assure la mise en onde de cette émission qui bénéficie du concours de production de Pierre Lamegi et Nico Kalambay. Cette émission est supervisée par Martin Sebujangwe et présentée et coordonnée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Et depuis hier, celui qui avait le lead de cette question de lutte contre l'Ebola, j'ai cité le ministre de la Santé, Oli Ilunga, venait de démissionner. Nous en saurons un peu plus tout au long de cette émission, les réactions des uns et des autres. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, JR, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, JR, je pense que le problème est très très sérieux. Et je n'aimerais pas que nous puissions accuser l'OMS. L'OMS fait ce qu'elle peut et elle a toujours montré sa bonne volonté. Elle est là avec nous. Alors, le gouvernement, par contre, vous allez constater que avec la démission de Oli Ilunga, il y a des choses qui se cachent derrière ce problème-là. Alors, si la présidence actuelle constate que Oli Ilunga n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ça signifie que Oli Ilunga aura à nous expliquer. Mais ce n'est pas pour rien que la présidence a parlé d'une volonté délibérée d'écarter certains spécialistes. Et actuellement, effectivement, tout le monde trouve anormal qu'il n'y ait pas d'évolution. Et donc, personnellement, je crois que le gouvernement s'y est pris avec beaucoup de maladresse. D'abord, pourquoi? Parce que au début, vous vous souviendrez qu'on a accusé les victimes de ne vouloir pas faire avancer les choses. Alors, vous comprenez que quand on accuse les victimes, la situation devient dramatique, parce que les victimes sont là, déjà victimes, et c'est eux qu'on a accusés de ne vouloir pas qu'on trouve des solutions. Et alors, je voudrais qu'on ne puisse pas aussi dissocier les choses, parce que l'attitude...
Oui. Quand vous rejetez en bloc, oui, Olivier, cette allégation qui met en cause, en fait, les victimes qui ne voulaient pas s'impliquer pour que finalement, en fait, je parle de la population locale qui ne voulait pas s'impliquer dans cette lutte. Quels sont les arguments que vous avancez qui prouvent à suffisance que cette allégation ne tient pas la route?
Vous savez que, au départ, si vous avez analysé la situation dès le début, vous avez remarqué que la méfiance que ces gens ont eue, en fait, cette méfiance est causée par la passivité du gouvernement face aux autres problèmes qui ne sont pas vieux, des problèmes qui datent de 4 ans, mais pour lesquels le gouvernement n'a trouvé aucune solution. Alors, ça signifie que ça, c'était déjà un point de départ qui faisait que les gens ne pouvaient pas croire que les mêmes gouvernements qui est à la base du chaos dans l'histoire de l'ADF Nalu, aujourd'hui, va se présenter comme sauveur. Donc, c'était un peu ça. Bien que il y avait de bonnes intentions, c'est vrai, pour le gouvernement. Mais il y avait cette histoire-là qui a causé déjà la méfiance. Donc ça, c'était une première chose. Alors, aujourd'hui, nous devons aujourd'hui appuyer l'OMS et ne pas dire que l'OMS a des difficultés. Et notre gouvernement est responsable, et je me dis que la décision de la présidence aujourd'hui de créer un comité technique peut peut-être nous révéler les faiblesses de l'ancienne équipe. Et ces faiblesses vont être encore plus mises à jour avec la démission de Oli Lunga, qui aura des choses à dire. Mais il y a des problèmes sérieux. Ce n'est pas. Et je vous rappelle aussi que l'OMS, il y a quelques temps, l'OMS a dit, enfin, un responsable de l'OMS a déclaré que Ebola.
Olivier, pour votre gouverne, la 10e épidémie a été pilotée par les mêmes animateurs qu'aujourd'hui, et certains qui sont aussi repris dans ces secrétariats techniques.
Oui, mais
parce que le début de la 10e épidémie à l'Équateur, je crois que il y a certaines personnalités qui se trouvent dans les secrétariats techniques qui y étaient même à l'époque.
Oui, Gilles, on a donné des noms comme celui de Mouyembe, ce qui est quand même une référence, ça nous le reconnaissons tous. Mais je vous rappelle aussi que l'OMS, un responsable, a dit il y a quelques jours que le problème d'Ebola, c'est une situation éminemment politique. Ça signifie que lorsqu'on parle de l'insécurité qui complique les choses, les acteurs de l'insécurité, si on n'arrive pas à les mettre hors d'état de nuire, il y aura des problèmes. Donc c'est aussi ça aussi. Il y a un problème politique. Il y a un problème, c'est pas même de faiblesse de l'équipe qui a été en place, et Oli Lunga aura à nous dire des choses là-dessus, et d'autres personnes qui n'ont pas été impliquées. Mouyembe aura aussi à parler parce qu'il a constaté des choses, et donc, je crois que nous devons ouvrir l'œil, parce que nous tous, on voudrait que ça finisse aujourd'hui, que ça finisse au plus tard demain. Mais voilà, donc, il y a des difficultés que nous ne savons pas gérer. Voilà donc.
Voilà, donc, si je retiens, par rapport à vos propos, trois aspects. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect politique, et aussi la faiblesse dans la volonté politique de pouvoir terminer cette affaire. Dès lors que, à la fin de la 10e épidémie à Mbandaka, l'État congolais avait déclaré la fin de l'Ebola, mais finalement, quelques semaines après, il y a eu des cas qui s'étaient déclarés au niveau de l'Ituri, pardon, de Beni, et qui s'étaient étendus au niveau de l'Ituri. Alors, aujourd'hui, pourquoi cela persiste? La spécificité, selon vous, donc il y a cet aspect politique qu'on doit revoir, et aussi revoir l'approche communautaire. Merci beaucoup, Olivier. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis, Félicien?
Moi, je dis que je ne peux pas comprendre que un pays comme le nôtre, qui est à sa 11e épidémie d'Ebola, soit encore dans les tâtonnements pour résoudre ce genre de problème, alors qu'il devait être expert en Afrique pour aider les autres, et nous ne pouvions pas nous retrouver encore dans cette situation. Et on dit généralement qu'on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Et nous savons que nous avons ici l'expertise. Et nous avons le professeur Mouyembe qui a démontré déjà aux yeux de tout le monde qu'il est compétent en la matière. Et je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas utilisé dès le départ et que c'est maintenant qu'on va le nommer par le président de la République. Et la politique que nous avons adoptée, surtout la culture de nos dirigeants, qui consiste à avoir l'argent pour l'argent à tout prix, enrichissement sans cause, peut faire partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que même la vie de la population ne compte pas pourvu qu'ils puissent s'enrichir. Et puis cette politique qui dit... et que l'insécurité, oui, c'est vrai, à l'Est, il y a ces facteurs de l'insécurité, mais cette insécurité est bien tolérée par les dirigeants politiques qui sont en train d'encourager l'insécurité à l'Est et qui sont en train de soutenir ou de trahir le pays qui est agressé par les pays voisins. Mais on ne peut pas dénoncer ça et on laisse faire parce qu'ils doivent garder leur poste et tout cela, ça vient au comble du malheur du peuple congolais. Moi, je pense que le docteur Ilunga devrait être interpellé, il devrait être entendu, parce que vous savez dans quelles conditions il est venu aux affaires et toutes et tous ceux qui sont venus avec lui, ils sont venus au moment où le peuple congolais cherchait à sortir du bourbier, ils sont venus troubler l'ordre pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Ils en ont eu suffisamment parce que ceux qui étaient...
Oui, oui, mais Félicien, aujourd'hui, quand on soulève les débats sur l'approche communautaire, la population qui n'a pas aidé l'équipe à pouvoir mener l'action avec beaucoup de succès, est-ce que vous partagez cet avis, vous, personnellement? Parce qu'il y a, il y a cette faiblesse-là au niveau de l'approche communautaire.
Ah oui, mais c'est parmi les stratégies de l'équipe. Si l'équipe n'était pas compétente, elle ne pouvait pas amener la population à adhérer au dossier. Donc c'est ça, c'est ce qui fait partie de la compétence de l'équipe. Donc c'est que l'équipe n'a pas fait son travail comme il devait se faire, et parce que 10 fois, la population a adhéré, et pourquoi cette fois-ci la population ne pouvait pas adhérer? Parce que nous connaissons qu'il y a les
Mais oui, il faut pas l'oublier aussi, Félicien, que au niveau de l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est quand même une autre réalité. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects sécuritaires qui va falloir prendre en compte.
Je viens de le dire, les aspects sécuritaires sont encouragés, l'insécurité est encouragée par la politique. La politique sait que nous sommes agressés par les Rwandais et les autres pays voisins, mais ils ont peur de désigner directement les Rwandais. Ils sont en train même de coopérer avec les Rwandais pour que la situation continue dans ce sens-là. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les détails. Nous connaissons ce qui se passe à l'Est parce que la situation de l'Est se terminera, l'insécurité à l'Est se terminera le jour où les Rwandais quitteront notre pays. Et qui soutient les Rwandais dans ce pays, ce sont les dirigeants congolais, ce sont les politiques congolais. Et ça, tout le monde le sait, parce qu'ils ont trahi leur pays pour leurs intérêts personnels, et ils sont là, et ils soutiennent le mal, et ils sont en train de faire souffrir la population, de faire plier leur pays, et ça, c'est connu de tout le monde.
Alors quelle est votre réaction lorsque vous apprenez que l'OMS vient même de déclarer l'épidémie d'Ebola RDC comme une urgence sanitaire mondiale? Qu'est-ce que ça vous fait?
Mais qu'est-ce que ça doit nous faire si c'est nous faire plaisir? Parce que si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de résoudre un problème, au moins au niveau mondial, au niveau international, on vient à notre secours. L'essentiel, c'est que les problèmes soient résolus. Pourquoi je dois être là en train de tergiverser? C'est dans l'intérêt de la population, je fais partie de cette population. Ce sont ceux qui sont en train de piller, ceux qui sont en train de voler l'argent qui est mis à leur disposition pour résoudre les problèmes, et qui doivent trouver du mal. C'est pourquoi ils démissionnent, mais pas la population. La population ne peut que se réjouir.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé et aussi d'avoir accepté. Ben alors, rectificatif, lorsque vous avez parlé des 11e épidémie, nous en sommes pas encore là. Selon les informations en notre possession, on est toujours à la 10e épidémie, mais qui s'est migrée donc vers le Béni et après l'Équateur. Et vous avez insisté beaucoup plus sur la participation des partenaires, mais aussi sur la faiblesse de l'État de pouvoir organiser avec efficace donc la riposte de cette 10e épidémie. Merci beaucoup, Félicien. On va prendre John qui est à Isiro. John, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. John, vous êtes avec nous à Isiro. John. Voilà, John, on a des petits soucis avec votre ligne. On va prendre Charles qui est à Kinshasa. Charles, bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup, J.R., pour la parole que vous m'accordez. Je tiens aussi à saluer les milliers de téléspectateurs de Radio Okapi. J.R., je crois que dans cette émission, on doit donner d'abord des précisions, des détails. On vient de nommer le coordonnateur de Mouyembe. C'est une très bonne chose que nous saluons. Mais nous vous donnons des éclaircissements en disant ceci. Le coordonnateur, lui, il ne travaille pas seul. Il a toute une équipe. Souvenez-vous, lorsqu'il avait reçu le prix Nobel, il a remercié toute l'équipe qui avait travaillé avec lui. Et même le docteur Oli Ilunga, qui venait également aussi de démissionner, il travaillait également avec Dr Mouyembe et toute son équipe de l'INRB. Je crois que c'est une pression de taille parce que les gens cherchent toujours à polémiquer. Il n'y a pas à polémiquer.
Oui, tout à fait, Charles. Je l'ai dit tantôt, je disais qu'à la 9e épidémie, même à la 10e, tout au début, Je crois que nous avons eu à réaliser plusieurs émissions ici avec l'équipe des épidémiologistes de la RDC. On avait compris que Dr Mouyembe et les autres étaient quand même impliqués. Mais au cours de la 10e édition, de la 10e épidémie, finalement, bon, il faisait plus partie de l'équipe. On ne sait pourquoi. Quelles sont les raisons qui ont poussé donc les ministres de les mettre de côté. Ça, nous ignorons concrètement, officiellement, parce que rien n'a été dit. Et aujourd'hui, qu'il revient à la charge avec cette nomination à la tête du secrétariat technique. Je crois que bon nombre estiment que voilà, les choses pourraient bien marcher. Mais si jamais cette approche communautaire que tout le monde souhaite de tout vœu n'arrivait pas, les résultats risquent de ne pas être escomptés. C'est lui escompté.
Oui, JR, vous avez totalement raison. Je voudrais d'abord donner cette précision de taille pour qu'on sache qu'en matière de lutte contre le virus d'Ebola, on doit travailler en équipe. Mais ce qui se passe dans notre pays, le problème, c'est quoi? En médecine, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Mais nous, en RDC, il y a des fois, nous rêvons. Parce que c'est comme vous avez dit, ce n'est pas la première fois que cette épidémie est en train de battre un record dans notre pays. Quelles sont les dispositions que nous avons prises? Ça, c'est la première question. Ou, par exemple, actuellement, hier, pendant que l'Ebola est en train de faire rage à l'Est, mais ici à Kinshasa, nous sommes en train de nous distraire avec des histoires de politique. Et aussi longtemps, on devait déjà prendre des précautions, parce que vous savez que Goma, Beni, Butembo, Kinshasa ici, est une porte ouverte. Nous avons les avions qui vont de temps en temps à l'Est et qui viennent ici. Est-ce qu'on a pris des dispositions? Demain, lorsque l'épidémie sera encore déclenchée ici chez nous, qu'est-ce que les gens vont commencer maintenant à dire? Moi, je crois que ce qui est plus important en matière de riposte, ce sont des précautions qu'on doit prendre. Même aujourd'hui, nous saluons l'arrivée de Dr Mouyembe. C'est bien, mais il doit travailler en synergie avec l'équipe qu'on va mettre en place pour que nous puissions lutter et prendre aussi des mesures de précaution, s'il vous plaît. Ça, j'insiste, JR. Nous sommes exposés, je l'ai déjà dit pour ne pas me répéter, les avions vont de temps en temps. Mais les gens qui seront débarqués dans ces avions, est-ce que nous savons qu'ils étaient en contact avec qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors si je comprends bien pour vous, Charles, ce n'est pas un problème d'homme.
Oui, exactement.
Ce n'est pas un problème d'homme. Alors, mais la grande question aujourd'hui, quelle est alors la spécificité de cet Ebola, la 10e? Parce qu'on ne comprend rien.
Pardon, j'ai s'il vous plaît.
J'ai dit, quand vous dites que le problème n'est pas celui d'homme, c'est que le problème réside réellement au niveau de la spécificité de cette maladie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ou que personne ne puisse les comprendre.
Oui, le problème, c'est comme vous avez dit, la spécificité, c'est que chacun n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Il faut qu'on prenne d'abord conscience que nous sommes en danger, l'Ebola est là. Il faut aussi mettre en place, il faut prendre d'abord toutes les précautions bien gérées. Vous savez, par exemple, pour la lutte contre le paludisme, vous avez, on met en place les moustiquaires infirmiers. Tout ça, c'est pour épargner que les gens ne soient pas contaminés du paludisme. Mais maintenant, on parle de l'Ebola. Nous devons aussi prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures, nous devons des précautions. Mettre aussi dans chaque porte.
Voilà. Petit à petit, on est en train de vous perdre, Charles. On va évoluer. Il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à cette émission en composant les 081 890 63 30.
Radio Capi donne la parole aux enfants sans exclure les adultes. Tous les vendredis à partir de 14h15, rediffusion tous les dimanches à 12h10 et mardi à 15h30. Les enfants et les adultes débattent sur les sujets qui les concernent sur votre radio.
Parole aux auditeurs.
Docteur Baté Djoloko, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes député national, mais par le passé, vous avez piloté aussi la dixième épidémie à Madaka et aussi à Beni. Actuellement, vous êtes député national, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut se faire une idée très claire sur ce qui s'est dit actuellement sur cette maladie? Tout le monde évoque les dysfonctionnements qu'il y a dans la gestion de la lutte de cette maladie. Alors, nous aimerions savoir pourquoi aujourd'hui cette maladie persiste. Est-ce qu'il y a une spécificité que d'aucuns ignorent ou qui ne maîtrisent pas.
Ok, merci. D'abord, il faut préciser que depuis que je suis député national, ce sera la première fois que je repasse sur vos antennes. Merci, mais j'avais fait la réserve. Mais depuis que le cas est arrivé à Goma, moi, je reviens du Maniema, où est-ce que j'ai été élu dans le territoire des Pangui, et j'ai trouvé que la population paniquait. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et voilà pourquoi je réponds à votre invitation comme député national. Juste pour résumer, je pense que il faudrait qu'il y ait un cadre beaucoup plus élaboré, beaucoup plus élargi. Nous serons prêts d'y participer pour décrypter les contextes dans lesquels cette épidémie survient. Déjà, je vous fixe que il n'y a aucun expert international et national qui n'a pas participé dans la gestion de cette épidémie. Tout le monde a été là. Mais pourquoi ça marche pas? Les mêmes joueurs qui ont gagné autant de trophées et ils sont sur le terrain et ils n'ont pas gagné. Ça signifie qu'il y a un paramètre nouveau. Et les paramètres nouveaux, c'est les contextes. Et là, juste deux mots. Le premier, c'est que quand nous débarquions le 2 août là-bas, on a trouvé une population qui ne connaissait rien d'Ebola, qui savait que Ebola c'est une affaire de l'Ouest et de l'Équateur. Et une population qui est très, très méfiante et réservée, qui ne faisait confiance en aucune instance internationale et nationale du fait des tueries antérieures. Bref, vous avez affaire à une population frustrée, qui s'est dit qu'on n'a jamais rien fait pour nous. Et du coup, Ebola arrive, tout le monde arrive. C'est de la méfiance. Au fait, le grand problème aujourd'hui, c'est résumé d'abord à cela. Comment créer la confiance entre nos équipes ou créer davantage, parce qu'il y a des résultats. Et là, il faut que, honnêtement, que les gens sachent que en santé publique, ce n'est pas seulement arrêter une épidémie qui compte, mais il y a aussi le nombre de vies sauvées. Et il y a des milliers de vies qui ont été sauvées du fait de cette intervention jusqu'aujourd'hui. Et là, c'est incontestable. Mais maintenant, vous arrivez dans un milieu comme celui-là, où le système de santé a des soucis, où le système communautaire n'est pas nécessairement très très bien lié aux actions de santé. Et voilà, vous avez des hôpitaux où l'hygiène hospitalière minimale n'existe pas. Les gens se sont fait contaminer dans les hôpitaux, et ça vous le savez, hier après nous avons parlé avec vous plus d'une fois.
Tout à fait.
Et quand les gens se contaminent dans les hôpitaux, ça signifie que le système de santé, c'est là qu'il faut aller voir. Vous voyez le système de santé, vous régulez les choses, vous accompagnez les cadres qui sont là-bas. Une année après aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un seul médecin chef de zone dans la région là qui ne connaît plus Ebola. Ça signifie qu'on doit maintenant changer et passer à autre chose, responsabiliser davantage les collègues locaux et que nous puissions vraiment rester au niveau juste d'accompagnement. Et à côté de cela, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, mais si nous bénéficions du maximum des confiances de la population, ça vaut la peine et ça va aller. Mais si nous restons dans l'approche, on est médecin, j'en suis un, on est médecin, bon, l'Ebola, c'est une maladie et tout, on fait pas recours dans aucune instance aux sociologues, aux anthropologues, aux psychologues et tout. Et en plus, la confiance s'est bâtie entre les personnes qui se connaissent.
Oui, et ceux qui disent que cette question, elle est éminemment politique, que répondez-vous à cela?
Moi, je suis politicien et je l'ai dit en toute conséquence, ce n'est pas une question politique. C'est nous, les politiciens, qui avons politisé cela. L'Ebola, l'Ebola, de Beni Boutembo, c'est comme l'Ebola qu'on a géré à l'Équateur, qu'on a géré au Basse-Ouélé. Sauf que si on est dans un contexte où il y a ce que je venais de décrire là, une population frustrée. Et du coup, tout politicien s'est fait sauter sur ça pour dire que bon, c'est elle qui nous a amené Ebola ici, bon, c'est elle qui n'a pas fait ce qu'il devait faire pour, mais nous ne devons pas tomber dans cela. Et je veux juste vous donner un autre exemple. On arrive toute la législation sur les enterrements. Mais c'est des textes obsolètes que nous avons dans les pays. Et ça, il a fallu qu'on travaille avec les maires de la ville, les procureurs et tout pour avoir, pour amener à ce que les maires de la ville de Beni puissent signer un arrêté à ce niveau circulaire pour réglementer plus ou moins les funérailles. Et ça, c'est pas politique, c'est la législation.
Alors, ben, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, docteur Djoloko? Aujourd'hui, vous êtes député. Je crois que les générations futures ont besoin quand même de connaître l'histoire et l'historique d'Ebola. Personne n'ignore que nous avons fait preuve en arrivant même à circonscrire cette maladie à une certaine époque. Aujourd'hui, certains experts, comme vous l'avez dit, qui étaient impliqués, mais qui ne se sont plus retrouvés dans le leader ou dans les lides pour lutter contre cette maladie à un certain moment. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Je ne sais pas vous dire grand-chose. Hein. J'étais d'abord dans la campagne, après c'était la Cour constitutionnelle comme tout le monde et tout. Mais je suivais tous les jours, hein, parce que j'étais expert, je suivais les cours épidémiologiques, les commentaires, j'avais les appels des collègues et tout. Là, c'est là qu'il est important de dire que quand vous avez affaire à une guerre, que c'est l'épidémie, l'Ebola, c'est une guerre, il doit y avoir une seule unité de commandement. Aujourd'hui, l'unité de commandement est démontée à la présidence, c'est quelque chose de très bon. C'est pas mal. Maintenant, la question est de savoir comment ça va se décliner en opération. Et là, ça sera ça, les grands problèmes. La mise en place d'une équipe autour du chef de l'État, c'est pas un problème. Mais par contre, comment ça va fonctionner? Comment on va arriver à gagner la confiance de la population? Comment on va arriver à faire assez que les résultats? Parce que moi, j'ai encore souvenance, quand nous quittions le site début décembre et tout, mais on était à 2 cas par jour, hein, de cas positifs. Hein. Manguine était déjà fermé et ailleurs. Mais quand je vois les titres tenir la situation épidémiologique, on est à 100 cas confirmés par jour. C'est l'hécatombe.
Mais maintenant... Mais aujourd'hui, on est à 1698 victimes, selon les informations que nous avons, sur plus de 2500 cas.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est là que moi, je me dis, il faut que nous fassions ce sujet... Que les cercles s'ouvrent, qu'on interroge tous ceux qui étaient là-bas et qu'on sache par où commencer. Cette épidémie, elle est réellement complexe, d'ailleurs. Elle est extrêmement complexe. Et quand vous êtes dans une situation complexe comme ça, il ne faut pas la complexifier davantage. Et moi, je résume ça en ce terme-là. La population doit être de notre côté. Et nous devons la pousser réellement à être avec nous, jour et nuit. N'est pas séquestrer les malades dans les centres de santé, n'est pas séquestrer les malades dans les maisons, et dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, rassurer les jeunes que l'Ebola n'est pas venu du fait d'être politique. L'Ebola est venu, c'est une maladie qui existe, qui a tué ailleurs et qui continue à tuer.
Voilà.
Et
parce moi, que si, on doit évoquer les tout derniers cas d'ailleurs d'un pasteur qui voulait passer, disons, la malle du filet, en trompant la vigilance de tout le monde, en quittant Goma pour aller à Beni. Et ça n'est quand même un exemple qui prouve à suffisance que ce que vous venez de dire tient la route. Il faudrait au maximum que la population soit sensibilisée. Et là, il faut vraiment des moyens. Mais des partenaires avaient quand même mis des moyens aussi.
Bon, là, c'est encore... je veux vous dire ma satisfaction. Une de mes satisfactions pour que ce soit porté au niveau des chefs de l'État, les commandements, au niveau politique et stratégique, c'est qu'effectivement, il faut qu'on sache qui apporte quoi. Et qui peut faire quoi et où. À cette question-là, je veux vraiment le dire comme ça, le ministre Oli s'est battu. Et il n'a pas été accompagné par sa hiérarchie. Il faut trouver des solutions à cela. Puisque quand vous créez une confusion en termes qui apporte quoi, vous ne savez pas qui apporte quoi, et la logistique n'est pas initiée, et c'est tout le monde qui fait sa logistique, pendant que pourtant vous êtes dans les mêmes champs de tir, en fait, champs de guerre. Et ça, c'est important, c'est des choses qu'il faut prendre en compte.
Voilà, ce qui étonne plus d'un, c'est depuis plus de 6 mois, si ma mémoire est très bonne, qu'une forte délégation est allée s'installer à Beni, qui fait peut-être des navettes entre Beni et Goma aujourd'hui aussi, mais les résultats est loin d'être trouvés. Donc c'est cela ce qui inquiète, parce que dernière nouvelle, d'ailleurs hier, quand je m'entretenais avec une équipe de l'OMS pour voir combien ils pouvaient participer à cette émission, ils m'ont même annoncé qu'il y a une délégation qui rentre déjà sur Kinshasa, et qui cette délégation est parti bien avant. Il y a même une équipe gouvernementale. Mais finalement, c'est tout le monde. Il y a un quartier général là-bas et tous ces efforts sont restés vains.
Oui. La menace est sérieuse pour les pays. Je venais d'en parler sur une chaîne de télévision. Nous ne devons pas paniquer. On ne doit pas paniquer. Mais il faut rester tête froide puisque le risque est majeur. Et quand vous avez un risque majeur comme ça, il faut que les gens se parlent. Et il faut que les gens, que personne ne joue au triomphalisme. Puisqu'il n'y a personne qui, il n'y a aucune équipe qui n'a pas fait son job. C'est question maintenant de s'interroger, s'arrêter, s'interroger, voir dans quelle direction devons le prendre. Et là, en ma qualité de député national, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il faut. Il faut interroger le système de santé, puisque c'est un problème de santé publique. Du quartier général, c'est vrai que, à son temps, moi, j'étais un peu réservé de dépasser le quartier général de Beni à Goma. Il est vrai que nous sommes fait flinguer. On a tiré sur notre hôtel, c'est pas une fois, plus de 2, 3, 4 fois dans l'hôtel où on était à Beni. et c'était très dur moralement à supporter. Et d'ailleurs, c'était un des plus grands défis que j'avais, c'est de remonter le moral des équipes. Quand on a tiré la nuit, le lendemain, il faut remonter le moral de toutes les équipes. Mais aujourd'hui, Zoom a augmenté ses limites.
Voilà. Parce que vous l'avez dit, le mot que j'évitais peut-être une menace, il y a un auditeur qui a beaucoup plus insisté. Est-ce que nous ne pouvons pas redouter que demain, cette épidémie se transforme à une maladie endémique?
Il faut qu'on arrive à ce que ça ne soit pas, que ça ne prenne pas cette forme épidémiologique. Et ça, c'est la bataille. Et là encore, c'est question d'école, c'est beaucoup de théories d'épidémiologie, je pense que vos étudiants n'en ont pas besoin. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter Ebola. C'est une maladie grave, c'est une maladie désastreuse, qui inflige des douleurs atroces aux personnes contaminées, guéries. Il faut pas se permettre qu'il y ait encore un seul mort. C'en est trop. Pour Ebola, nous avons la maîtrise scientifique de la question. Ayant cette maîtrise scientifique, on doit juste passer maintenant à s'interroger qui peut faire quoi, comme dans une équipe de football.
Merci beaucoup, docteur Njoloko. Nous vous gardons en ligne, docteur Baté, et nous rappelons que vous êtes député national et aussi ancien directeur de questions de maladies en santé publique, donc au ministère de la Santé à RDC. Nous vous gardons en ligne et le temps d'écouter les autres auditeurs qui nous ont rejoints pour échanger dans cette émission, et nous rappelons en même temps à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent aussi participer à ces débats en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Polydor, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution, Polydor?
Oui, ma contribution est d'abord de dire à l'honorable qui est votre invité qu'il doit cesser à minimiser les cas de virus Ebola qui se passe aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, parce que la façon dont tu es en train de s'exprimer, ça prouve que il cherche à négliger une réalité que la population est en train de vivre.
Oui, mais Polydor, quand quelqu'un dit que c'est une menace, à quel niveau vous estimez qu'il y a un degré de négligence? Quand quelqu'un reconnaît qu'il y a une menace.
Il est en train de parler comme étant un politicien. Quand il dit que ce n'est pas un problème politique, ça prouve qu'il reconnaît au moins le vrai sens de ce qui se passe à l'Est. Parce que nous savons que lorsque cette population qui a été menacée des années avec des meurtriers, des rébellions et de suite, et en cela, ça ajoute encore un camp d'épidémie d'Ebola. Comment pouvait se comporter cette population qui, à un certain moment, pouvait mettre son espoir sur la politique et qui devait chercher comment d'abord chercher à le sécuriser, comment le mettre à la réalité de ce qui se passe de l'autre côté. Et lorsque cette population se retrouve abandonnée, parce qu'aujourd'hui là, c'est condamnable que non, la population n'écoute pas ce qu'on lui parle par rapport au virus d'Ebola, nous nous disons que non, ce n'est pas ça, c'est de la mauvaise politique qui amène à ce que ce virus-là ne puisse pas trouver une solution. Prenons aujourd'hui le cas des 60% pour le cas des décès par rapport à l'ensemble de ceux-là qui ont été contaminés de cette maladie. Vraiment, ça prouve que la politique est limitée dans le sens que si réellement la politique s'est ingérée dans cette situation, cette maladie allait être éradiquée. Prenons le cas de l'Équateur. À l'Équateur, qu'est-ce que la politique a fait pour que cette maladie puisse prendre moins de 6 mois? Mais aujourd'hui, à l'Est, la situation continue toujours à perdurer. Et les cas d'insécurité, lorsque l'honorable cherche à négliger pour dire que non, ce n'est pas le problème de la politique. Même nos partenaires de l'OMS qui sont venus pour nous secourir sont attaqués. Les équipements sont saccagés, sont brisés. Les personnels de santé qui sont attaqués, même les sites là où Ebola devrait être, les personnes d'Ebola sont gardées, sont souvent attaqués par les rebelles. Et lorsqu'ils lui cherchent à dire que non, ce n'est pas le problème de la politique, c'est regrettable, c'est regrettable. C'est pour cette raison que nous avons dit que les ministres et son équipe doivent démissionner, doivent avoir le courage de démissionner, de dire tout haut que non, les choses n'est plus à notre niveau et que les partenaires ne puissent prendre les choses en charge. C'est ça cela que l'honorable député doit connaître. Donc cette population a raison aujourd'hui de se paniquer parce que c'est inconcevable. Après la guerre, le meurtrier des rebelles, ils doivent maintenant passer à au virus d'Ebola. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de solution. Les cas continuent toujours à se propager, les morts continuent à s'enregistrer du jour au jour.
Donc, merci beaucoup. Merci. Merci Polydor. Merci Polydor, on va prendre Jérémy qui est à Lubumbashi. Jérémy, vous êtes avec nous, bonjour. Jérémy, vous êtes avec nous? Jérémy? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Jérémy. Amani Christophe, depuis Ouvira, Sud Kivu, dit ceci. Moi, je pense qu'à mon avis, vaut mieux tard que jamais. Nous saluons cette décision de l'OMS. Souvenez-vous, pendant que notre gouvernement, au travers son ministère de la Santé, ne faisait qu'affirmer que tout allait bien, qu'elle contrôlait la situation, alors que c'était pratiquement contraire sur le terrain, la réalité en est autre. Patrick Kakule Moulaï de Goma, je pense qu'avec cette épidémie d'Ebola, le gouvernement congolais et l'OMS néglige la riposte du fait que ceux qui interviennent dans la riposte sont là pour s'enrichir et non pour lutter contre cette épidémie. Le premier cas signalé à Goma est pédagogique alors qu'il y a tant de barrières à riposte dans la nationale numéro 4. Jacques Katembo, Machupa de Butembo, nous qui sommes sur terrain, nous souffrons beaucoup. On a déjà perdu nos frères et sœurs et l'État prend ça comme une petite chose. Alors, nous continuons à mourir au jour le jour. Mugaruka Jean-Baptiste depuis Walikale. À mon avis, je pense que l'éradication de l'épidémie à virus Ebola semble être difficile parce que certains en font un fonds de commerce. Docteur Djoloko, je reviens à vous. Vous êtes en ligne avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Le fait qu'elle soit déclarée urgence sanitaire mondiale, qu'est-ce que cela peut nous faire? En tout cas, qu'est-ce que cela peut faire à un Congolais moyen?
D'abord, je reviens sur un compatriote hein, qui tient le discours qui nous a aussi amené dans cette situation, malheureusement. C'est de dire que Ebola est politique. La solution, elle est politique, mais Ebola n'est pas politique. Voilà pourquoi le chef de l'État a pris la décision de ramener la supervision stratégique à ce niveau. Ça, c'est politique. Mais à dire que Ebola est politique, je ne sais pas hein, qu'est-ce que je veux dire par là. Mais alors, et ça je l'ai dit, et ça le monsieur doit savoir, je ne parle pas comme un député, mais je parle comme un député qui a fait 4 mois dans les premières périodes de cette riposte, et les Nations Unies ont même décerné tout un certificat d'honneur à toutes les équipes que j'ai coordonnées, qui s'étaient passées sur les médias. Et c'est vraiment les Nations Unies. Ça signifie qu'il y a un travail appréciable. Mais à un moment donné, bon, les choses peut-être ont connu un autre coup dur qui s'est arrivé à dysfonctionner. Voilà pourquoi, pour moi, il n'était pas question de dire que le ministre de la Santé, il était là, il disait que tout allait bien, c'est pour cela qu'il a fallu attendre que l'OMS... Non, la décision de l'OMS, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, ce n'est pas une décision que l'OMS a prise elle-même. Elle ne l'a pas prise en catimini à Genève, non. C'est des discussions avec les partis nationaux. Moi, au nom du ministre de la Santé, à l'époque, nous avons tenu une téléconférence avec Genève, Dakar, Johannesburg, Nigeria et l'Ouganda pour que déjà au mois de septembre, il y avait cette menace-là pour l'OMS. Mais nous connaissons les conséquences économiques pour la population. Et à l'époque, ce n'était pas indiqué. Mais maintenant, c'est indiqué. Il n'y a pas à dire que non, les gens...
Est-ce que votre plaidoyer n'était pas convaincant à son temps-là, à ce temps-là, et aujourd'hui, c'est pourquoi certaines personnes estiment que bon, l'OMS s'y est prise en retard?
Non, cette décision a été prise au moment où elle a été prise, et c'est indiqué, puisque évidemment, avoir un cas positif à Goma, ça change tout le paradigme de la riposte. Mm-hmm. Et quand c'est encore à Goma, à Beni, à Mangina, à Makeke, dans les petites cités, c'est d'autres paramètres. Je ne pense pas que ce soit les lieux d'aller dans tous ces détails-là. Mais Goma, il y a un aéroport international, il y a des vols qui viennent, Ethiopian, Kenya Airways, je ne sais pas quelle compagnie, qui a atterri à Goma. Goma, une fois de plus, on ne va pas comparer Goma à d'autres villes de la République où avait sévi l'épidémie Ebola. Moi, je dirais peut-être qu'il y ait toute une émission autour juste du contexte. Qu'on explique aux Congolais quel est le contexte dans lequel cette épidémie est arrivée et qui complique la riponse et qui demande à ce que nous puissions fonctionner autrement.
Tout oui. Le monde est en fait oui, mais en attendant que nous ayons encore une autre émission sur ça, est-ce que vous ne pouvez pas éclairer l'opinion aujourd'hui sur ces contextes-là?
Oui, le contexte est simple. Vous avez affaire, vous ne gérez aucune épidémie sans avoir la complicité, moi j'utilise le mot complicité, de la population locale. Mais nous débarquons à Beni, vous trouvez une population meurtrie, frustrée, presque abandonnée par toutes les instances nationales et internationales. La coopération ne marche pas autant que quand vous débarquez en Bandaka, où les gens vivent du C et Kinshasa. C'est pas la même chose qu'au Bas-Boué, c'est pas la même chose qu'à Diéra, c'est pas la même chose qu'à Kikwit, où les gens savent qu'à Kikwit, la vie vient de Kinshasa. Mais Beni, Butembo, la vie ne vient pas de Kinshasa. Par contre, eux, ils estiment que Kinshasa avait tourné les dos depuis des années. Et là, ça change du tout la complicité entre les acteurs et les populations locales frustrées, pleines, monsieur les journalistes et les auditeurs. Et c'est pour ça que je dis, il faut, en plus de ça, il y a des éléments qui ne sont pas aussi effectifs que cela. Moi, je dis, c'est un voyage en international, et en local.
Voilà, on commence à avoir un tout petit peu de petits soucis avec votre avec la communication, docteur Djoloko. Je crois que là où vous êtes, peut-être vous ferez mieux de changer un peu de position pour nous permettre d'avoir une communication très fluide, parce que on a des petits soucis. Les gens, en tout cas l'opinion, aimerait se faire une idée quand même sur ces contextes-là que vous évoquez. Voilà, donc on a des soucis vraiment à vous capter.
Ça marche là?
Voilà, allez-y maintenant, allez-y.
Non, oui, j'étais en train de dire, comme dans la gestion de toute épidémie, toute expérience en santé publique sait que vous ne mettez pas fin à une épidémie sans avoir la complicité, la confiance de la population touchée. Il faut transformer cette population touchée en population actrice de la réponse. Maintenant, vous débarquez à Goma et vous trouvez que la population elle vous regarde de façon la plus méfiante et justifiée, puisqu'elle a été meurtrie, elle a été frustrée, elle a été entimée. Selon elle, abandonnée par les pouvoirs publics de Kinshasa. Et là, ça change tout. Et nous n'avons connu aucune épidémie à travers le monde qui est survenue dans un contexte d'insécurité, de guerre, comme c'est le cas à Beni Butembo. Il n'y a aucun expert qui a fait ça. Tout le monde est en train d'apprendre à Beni Butembo. Et voilà, et les Congolais doivent le savoir que ces experts, et nationaux et internationaux, nous tous, nous apprenons comment gérer une crise de santé publique dans un contexte de guerre, dans un contexte de tuerie. Voilà l'élément. Mais il y a un autre élément aussi positif. C'est de dire, Goma, Butembo, Beni, c'est des villes de millions de personnes, et ces personnes-là ne circulent pas en pirogue. Ces personnes ne circulent pas en vélo. Ces personnes circulent par avion, par véhicule. Ça signifie, vous avez le risque que l'État bouge très facilement. Dieu merci, moi je suis chrétien, je vous dis que moi je félicite les équipes qui ont fait le job de contenir depuis le début qu'il n'y a que 12 mois après qu'il y ait un cas à Goma. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Il faut qu'on se remette au travail, qu'on charge les fusils d'épaule.
Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Peut-être quelques éléments que vous allez donner à cette nouvelle équipe qui sera pilotée donc par Dr Mouyembe. Que faut-il faire concrètement, Dr Baté?
Pour moi, il faut
des propositions.
La proposition, c'est qu'il faut que ça soit. Il faut d'abord que ce soit une équipe réellement multisectorielle. C'est un. Ça signifie là-dedans, je vois qu'il y ait des communicateurs, qu'il y ait des entrepreneurs, des sociologues. Comme c'est une question de confiance, il faut, on ne bâtit pas la confiance avec un inconnu. On doit avoir les enfants de Litouri, de Kivu, dans ces groupes-là, dans ces secrétariats, qui vont construire la confiance. Puisque ce n'est pas ici, ce n'est pas une question de dire tel est expert, tel est l'État. Ici, c'est une question, comment tu vas faire ton travail en toute quiétude? Comment faire le travail en toute quiétude et avec la confiance de bénéficier de tes prestations? C'est ça les grands défis. C'est ça les grands défis.
Alors, le commandement, le financement, qui doit gérer?
Je sais que beaucoup de gens ont écrit autour de cela sur...
Parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, même les débats là où ça se tient, sur notre page Facebook, cette question revient. Les gens aimeraient, en tout cas, parce que sinon, les nerfs de la guerre, voilà, donc c'est pratiquement l'argent. Comment ça doit être géré? Qu'est-ce que vous suggérez? Parce que vous suggérez, vous avez été à la tête de cette réponse pendant 4 mois.
Le sujet, c'est que les gens résument facilement dans mon pays les choses en des termes. Oui, c'est question d'argent. Oui, il a démissionné, puis il y a l'argent et tout. Ça en va l'effort. Le ministre a démissionné et c'est pour des raisons qui lui sont propres. Et je le respecte. Mais c'est une personne qui s'est battue, qui a risqué dans cette région-là. Et on ne peut pas résumer le sacrifice d'une personne à une histoire d'argent. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des soucis d'argent? Bien sûr. Il y a des personnes qui sont sur le terrain qui sont impayées. Et là, c'est clair qu'on a besoin d'argent. Et l'argent doit être injecté dans les opérations. Dans les opérations. Mmh. Voilà pour moi, en deux mots. Où est-ce qu'il y a les opérations? Mettons l'argent là où il y a les opérations. Est-ce que l'argent est injecté là où on a des résultats? Si c'est oui, on continue. Si c'est pas oui, on change. Mmh. Et on voit à quelles devaient être d'autres cibles d'attribution des fonds, d'allocation des fonds.
Ma question, est-ce que l'argent doit être géré par les secrétariats techniques ou bien par les chaînes de dépenses de l'État elle-même?
Oui, non, là je pense que je vais rappeler peut-être aux auditeurs une notion de santé publique élémentaire. En fait, dans pareille crise, les gens fonctionnent comme dans l'armée. Mmh. D'ailleurs, la santé publique a copié beaucoup d'éléments de l'armée. Vous n'allez pas dire que l'argent doit être géré à Kinshasa. Quand il y a les opérations pour la D, pour la 3, l'argent c'est à qui? Si vous mettez à qui les soldats sont à Irengeti, vous voulez quel résultat? Mais dans l'entretemps, est-ce que l'état-major va fonctionner sans argent à Kinshasa? C'est à toutes ces questions qu'il faut répondre. Mmh. Voilà.
Voilà, on va y revenir peut-être, docteur Baté, comme vous avez pris l'option de sortir du silence depuis que vous êtes député, pour parler de cette question que vous avez eu à gérer aussi à un moment. Nous allons prendre quelques auditeurs pour terminer, et puis on reviendra à vous pour la conclusion. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, je crois la ligne s'est améliorée. Jérémy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles, bonjour également à l'invité avec vous. Nous saluons quand même dans cette thématique parce que dans l'État, nous avons eu à parler, hein, tant à ceux, nous nous sommes dit que, vous savez, dans notre pays, nous manquons cette culture-là. Lorsque les choses ne semblent pas bien tourner, on semble les quitter. Dans l'État, lorsqu'on était encore avant d'atteindre les 10 jeunes rounds d'ici, j'aurais dit, je pense que c'était monsieur Deroux qui était encore sur le plateau, j'aurais dit ceci. Si le ministre, il savait que le ministre trouve que les choses ne semblent pas marcher, il n'avait pas démissionné. Mais c'est aujourd'hui que le premier ministre, plutôt le ministre de la Santé, fait le faux fuyant, alors il laisse les choses. Je pense que pour ce qui concerne l'épidémie, moi je le place sous deux signaux. D'abord, un, sur le plan politique, et deuxièmement, sur le plan sanitaire, donc il est question. Pourquoi je dis politique? Vous n'avez pas dit à monsieur, je ne sais pas, qui est allé là-bas, qui était à la Mouka. Il est allé là-bas pour quelle raison? Et il dit, il vient résoudre le problème de l'épidémie. Je comprends là-bas qu'il y avait un problème politique. Deuxièmement, on a tué un médecin qui était en train de soigner là. On l'a tué pour telle raison. Donc c'est un problème politique. Alors, je pense que pour que ce problème, bien sûr, qui est devenu urgence, on a raison de le dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons pourquoi il peut y avoir une limitation. Parce que je le dis en ce temps-là, il est évident au regard de ce que nous sommes en train de voir, cette épidémie peut connaître des limitations et devenir endémique. C'est là que nous sommes en train de partir. Je pense qu'il revient au jour d'aujourd'hui, le décideur, via le ministère de la Santé, lorsque c'est lui qui doit imposer la politique, comment voulez-vous, j'avais dit, il fallait de la sensibilisation. Les gens ne sont pas sensibilisés, il y a des maladies qui passent d'une personne à une autre, sans qu'une politique soit mise sur pied. Je pense que c'est le ministre qui devrait imposer cette politique. Si au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État a pris les choses en main, Je pense que c'est parce qu'il a vu que le président et plutôt le ministre étaient aux abonnés à part. Il fallait vraiment remobiliser les forces, changer quand même la donne. Question de ramener. Comment voulez-vous, il y a des milliers de Congolais qui meurent au jour le jour. Mais ça ne va pas. Je pense que notre pays doit prendre des mesures qui s'imposent. J'aimerais que cette organisation qui est en train de se faire, celui qui sera à la tête pour coordonner ces choses, qu'on arrive quand même à éradiquer ces fléaux qui semblent vraiment prendre de l'envol et on est en train de perdre les personnes les plus chères. Et c'est une très bonne chose. Je pense qu'on doit éviter de politiser cette épidémie, ces problèmes d'épidémie, et chercher à se mettre ensemble pour savoir d'où vient cette épidémie. Comment est-ce que nous pouvons la gérer, question de pouvoir la mettre de côté. Sinon, ça ne marche pas. On risque de contrôler un peu le mouvement d'entrée et de sortie. Tout ça, ça crée un peu de problèmes. Et c'est pourquoi l'Est ne plus se solliciter quand les gens qui entrent frauduleusement dans ce pays. Et voilà, il le sort qui arrive. Et pourquoi l'Est n'est pas ailleurs? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes qui se passent sans qu'on s'en rende compte. Un affaire qui passe, voilà, il impose les mains. Les gens connaissent les problèmes et lui-même affecté, il va traiter. Tout ça, ce sont des préalables qu'il fallait prendre de l'avance, question de pouvoir, n'est-ce pas, rétablir les choses.
Non, merci beaucoup. Merci
dans
beaucoup.
Notre pays, on attend lorsque les choses avancent, mais là, on prend des décisions avec le temps. L'urgence est là, oui.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Alors, Mardoché, vous allez placer aussi un mot. Vous êtes avec nous à Guadeloupe. Bonjour, Mardoché.
Oui, bonjour, hier, et bonjour à nos à tous les auditeurs.
Oui, rapidement, vous placez un mot et puis on conclut avec notre invité. Juste une phrase.
Je voulais dire ceci. Vous avez posé la question à l'invité de savoir quelle est la spécificité de cette maladie. Mais l'invité a un problème de vous expliquer clairement quelle était la spécificité de cette maladie. À mon avis, je vois que la spécificité de cette maladie, c'est la politisation de cette maladie par les politiciens. Lorsque l'invité nous dit que la population de Beni a été abandonnée par le pouvoir de Kinshasa, alors le pouvoir de Kinshasa a été dirigé par qui? Les pouvoirs sont en train de diriger par les politiciens. Nous avons tous été au courant lorsque les politiciens, après, avant les élections, commençaient à intoxiquer la population, que non, on nous a inventé cette maladie parce qu'on voulait faire reporter les élections. C'est ce qui a poussé à ce que même la population devienne hostile à l'équipe de riposte des maladies. Donc pour dire que aujourd'hui, si on voulait bien éradiquer cette maladie, que les politiciens mettent leur mal à la patience. J'avais aussi parlé sur votre chaîne ici que les politiciens qui étaient à la base de toute cette cacophonie soient sur le terrain, sensibiliser la population afin que la population s'approprie de cette maladie.
Merci beaucoup, Mardoché. Alors, docteur Djoloko, vous allez passer un mot juste pour conclure cette émission. Alors, qu'est-ce que on doit s'attendre à l'avenir?
Pour moi, deux petites choses, deux éléments majeurs. Et la première, c'est que l'équipe mise en place doit être réellement multisectorielle et doit avoir des personnes qui ont pignon sur rue du point de vue notoriété dans les coins de Beni-Boutembo. Et il faut que ces gens-là voient dans cette équipe les leurs. Malheureusement, c'est cela la réalité. Puis j'ai eu des appels de la notabilité locale. Deuxième élément, c'est que personne ne peut. Nous devons rester très très humbles par rapport à toutes nos interventions. Puis nous avons en face de nous une population meurtrie, abandonnée. Il ne devait pas y avoir de triomphalisme, que c'était qui a bien fait, que quel autre n'a pas bien fait. D'autant plus que tout le monde a été là. Mais comme on ne peut pas réinventer les compétences en un jour, ce sont les mêmes compétences auxquelles nous devons recourir. Et le monsieur qui venait d'intervenir, qui est revenu sur la politisation, moi j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des politiciens qui ont saisi la survenue de cette épidémie pour se taper une opinion politique et qui était utile pour eux pour les élections qui pointaient à l'horizon. Maintenant, s'ils ont été élus ou n'ont pas été élus, là n'est pas la question. C'est de se dire maintenant comment nous devons maintenant nous mettre autour de la table avec ceux-là qui ont pris cette maladie, ils l'ont politisée pour que nous puissions trouver la voie de sortie. Mmh. Ce sont leurs électeurs qui sont morts.
Voilà
un peu les quelques éléments pour moi, sans oublier que cette épidémie, c'est la preuve que notre système de santé du pays n'est pas suffisamment résilient. Et comme il n'est pas totalement résilient, si nous avons un cas dans d'autres grandes villes, on risquerait d'avoir la même situation si seulement la population ne serait pas vraiment déterminée, prête, engagée à soutenir les équipes de la riposte. Et je félicite tous les collègues internationaux et nationaux qui se sont sacrifiés à travailler dans les contextes.
Voilà, on ne saura plus aller plus loin, mais docteur Tsioloko, nous rappelons que vous êtes député national et vous avez eu à diriger, à mener des actions pour la riposte de cette maladie pendant 4 mois dans l'Est de la République. Merci de votre disponibilité pour participer à cette émission. C'est par ici que nous arrêtons et nous disons merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Le débat se poursuit sur www.radiocapi.net et aussi sur notre page Facebook. Le rendez-vous est pris entre-temps pour demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.